franceinter.fr.
Le grand reporter du Figaro, Adrien Jaulme, est votre invité, Léa Salamé.
Bonjour Adrien Jaulme.
Bonjour.
L'avancée de Daesh en Syrie et en Irak est en train d'être stoppée, ont déclaré hier dans un communiqué commun les 60 pays membres de la coalition. Pas du tout, leur répond Bachar el-Assad dans une interview à Paris Match ce matin. Les frappes aériennes de la coalition ne sont ni sérieuses ni efficaces, dit-il. Qui a raison ?
Je crois que le point de vue de Bachar el-Assad, le président syrien, est assez clair. Il est en train de bénéficier des frappes aériennes de la coalition internationale contre l'État islamique, qui figure parmi ses principaux ennemis. Ensuite, est-ce que l'avance de Daesh a été stoppée ? Sans doute, mais le problème manifestement n'est pas réglé. En gros, on a fait plutôt du contrôle de l'incendie que nous avons même commencé à l'éteindre.
Mais est-ce qu'Obama peut gagner cette guerre avec sa stratégie qui est « je veux affaiblir Daesh en Irak, mais je ne veux surtout pas toucher à la Syrie, je ne veux surtout pas ouvrir le problème syrien et le problème Bachar el-Assad ».
Là, je crois qu'on touche à une des contradictions fondamentales de cette opération contre l'État islamique. C'est-à-dire que d'abord, on continue à considérer que l'Irak et la Syrie sont deux cas totalement étanches et deux dossiers qui ne communiquent aucunement, alors que l'État islamique est installé en cheval entre les deux. Donc on est déjà dans quelque chose d'assez paradoxal.
Alors ce livre du journaliste irlandais Patrick Cockburn, dont vous signez la traduction et la préface, commence par une date cruciale. Le 10 juin 2014, un groupe de djihadistes prend la deuxième ville d'Irak, prend Mossoul. Ils vont installer leur califat sur un vaste territoire que vous venez de nous citer, qui est donc entre l'Irak et la Syrie. Pourquoi dans notre époque surinformée, personne, ni les Américains, ni les Européens, ni les États arabes n'ont vu ça venir ?
En grande partie parce que l'information ne veut pas forcément dire qu'on s'intéresse à toutes les choses. L'Irak était devenu, et notamment on connaît l'allergie américaine pour l'échec, l'Irak était devenu pour eux une sorte de mot dont ils n'avaient même plus entendu, ils n'avaient plus envie de parler. Donc il y a une sorte d'aveuglement volontaire, notamment de la part de Washington, qui ne voulait manifestement plus jamais entendre parler de cette histoire catastrophique. Obama a retiré les troupes américaines à la fin de 2011, il considérait que c'était un dossier réglé et qu'il ne s'agissait pas de... Il ne s'agissait pas d'entendre à nouveau parler. Le problème, c'est que la situation en Irak et en Syrie, ce n'est pas parce qu'on ne regarde plus les choses qu'elles cessent de se produire. Et on a vu le résultat cet été.
Et pourtant, tout était écrit dans un rapport du Congrès qui est remis quelques semaines après le 11 septembre. Un rapport de 28 pages qui pointe un pays, l'Arabie Saoudite. Obama avait promis de déclassifier ce rapport, il ne l'a pas fait.
Ça, c'est fait partie des grands paradoxes de là aussi cette espèce d'aveuglement que l'administration américaine pratique parfois. Il leur a fallu attendre 2011 et qu'on découvre que Ben Laden se trouvait dans une ville pakistanaise pour qu'ils s'aperçoivent qu'Islamabad jouait un jeu un peu plus complexe que ce qu'ils s'imaginaient en Afghanistan. Il a peut-être fallu attendre août 2014 avant que les Américains ne réalisent que l'Arabie Saoudite avait une position pour le moins ambiguë en ce qui concerne les djihadistes de l'État islamique.
Mais c'est la thèse, c'est une des thèses du livre, c'est que la grande erreur du 11 septembre, au lieu d'aller attaquer l'Irak, on aurait dû s'intéresser aux deux soutiens du terrorisme, à savoir l'Arabie Saoudite et le Pakistan dont vous parlez, sauf que pour l'Amérique, on ne touche pas à ses alliés, c'est ça ?
En quelque sorte, oui. Mais alors, les Américains qui parfois pratiquent l'auto-aveuglement ne sont pas non plus stupides. Donc, il y a peut-être une prise de conscience qui est en train de se produire actuellement sur l'ambiguïté de la position saoudienne. Après, certains pourront parler de duplicité et aussi sur l'ambiguïté, voire même la duplicité là aussi de la position de la Turquie.
Alors, les rêves les plus fous de Ben Laden sont exaucés avec l'État islamique, l'organisation État islamique. Ils sont plus modernes, plus organisés, plus territorialisés qu'Al-Qaïda. C'est des enfants d'Al-Qaïda, Daesh. Et pourtant, est-ce que vous diriez qu'ils ont dépassé le maître ?
D'une certaine façon, oui, parce que là où Al-Qaïda était une sorte d'idéologie eschatologique un peu hors sol, quelque chose qui était une sorte de rêve un peu fou, de djihad global, là on voit avec l'État islamique, d'ailleurs le nom original de cette organisation qui était l'État islamique en Irak et au Levant, c'est-à-dire en Syrie, l'indique très clairement, c'est-à-dire qu'il s'agit de constituer un territoire en contrôlant des villes, des populations, avec une économie qui leur permet en tout cas de financer une partie de leurs activités. Donc oui, d'une certaine façon, l'État islamique a réalisé une partie de ce
Ben Laden.
Ben Laden.
Et puis à la communication. Ils instaurent leur domination à coups de meurtre et de décapitation. Ils réalisent à coups de vidéos gore et de tweets vengeurs une opération de marketing politique d'un genre nouveau, écrivez-vous, peut-on lire dans ce livre. Il y a tout cet aspect-là de la communication où ils sont maîtres dans ce domaine.
Bah oui, là où Ben Laden appartient à une autre époque, c'est-à-dire qu'il allait se faire filmer
dans sa cave,
dans sa grotte ou dans une cave avec une vidéo où il se contentait de parler. Là, tout à coup, ça apparaît tout à coup comme totalement daté. Là, on voit avec l'État islamique, enfin, ça tweet, ça met des vidéos en ligne. Enfin, on est face à quelque chose de résolument moderne.
Qui dirige l'État islamique?
C'est une organisation qui est manifestement assez hiérarchisée. On a vu apparaître un peu après la chute de Mossoul celui qui s'est proclamé calife, Abou Bakr al-Baghdadi. On connaît aussi, puisqu'il y a un certain nombre de... Il y a un certain nombre de ministres, ou du moins de chefs qui sont politico-militaires et qui l'entourent. D'autres sont moins connus. Manifestement, la façon dont l'État islamique agit et réagit indique que c'est une organisation parfaitement structurée. Les témoignages qu'on recueille indiquent aussi que qu'il y a une hiérarchie qui fonctionne. Enfin, j'allais dire, on est face à quelque chose d'assez élaboré.
D'où il vient ce thème-là?
Alors après, ça tout dépend. Le problème, c'est que toutes les informations sur al-Baghdadi émanent soit des services de sécurité irakiens, soit des services de renseignement américains. Donc dans les services de renseignement, dans les deux cas, ont toujours un intérêt à annoncer quelque chose. Mais manifestement, il y a quelque chose le personnage qui le dessine. Alors est-ce qu'il a vraiment été capturé gardé en prison dans une prison américaine en Irak pendant 6 ans ou pendant 2 ans, est-ce qu'on savait que c'était quelqu'un d'important? Ça, c'est difficile à dire. Manifestement, il fait partie de cette génération d'Irakiens qui a été formée dans le creuset de la lutte contre l'occupation américaine de leur pays.
Le livre s'appelle « Le retour des djihadistes aux racines de l'État islamique ». C'est aux éditions des Équateurs, signé des journalistes Patrick Cockburn et Adrien Jaule. Merci à vous, belle journée.
Merci beaucoup Léa Salamé, 8h dans un peu plus de 3 minutes sur Inter, l'heure de Charline.